Le dévoilement de Dieu numéro 86. Les deux vignes. Les jumeaux. Les définitions. Les mots ont un sens. Le 24 mars 2019. Brian Kozurek. Pasteur. Dans notre série sur le dévoilement de Dieu, nous avons commencé une autre mini-série sur les jumeaux en lisant les paragraphes 188 à 195 du sermon de Frère Branham du Deux-Voiles. Comme je n'ai mis veut pas les répéter ici ce matin, nous n'y reviendrons pas et Néhémie les relirons pas, mais afin de comprendre le sujet des jumeaux, nous devons d'abord comprendre la différence entre la préscience, l'élection et la prédestination. Beaucoup de gens aujourd'hui, en particulier les fondamentalistes et les évangéliques, diffèrent grandement sur ce que sont exactement l'élection et la prédestination. Cependant, le principal problème n'est pas tellement que Dieu prédestine ou pas, mais le problème est celui du choix. Ou plutôt le choix de qui. Les hommes veulent tellement contrôler leur vie qu'ils ont placé le libre arbitre comme le summum de l'expérience de l'homme avec Dieu. Les hommes, semble-t-il, préféreraient avoir la capacité de choisir Dieu, plutôt que de permettre à Dieu lui-même de choisir. Ainsi, les hommes essaieront de trouver des justifications à l'élection en utilisant le mot « préscience de Dieu » comme excuse pour placer la capacité de l'homme à choisir au-dessus de celle de Dieu. L'apôtre Paul enseigne cela dans Romains 11.33, « aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Car 34 qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, 35 qui lui a donné le premier, pour qu'il a recevoir en retour, 36 sester de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Même frère Branham, sachant combien les hommes détestent le mot prédestination, a dit qu'il utilisait le mot préscience de Dieu à la place pour empêcher les gens de s'agiter après qu'il ait prêché sur le sujet. Et il a également dit que c'était pourquoi il n'enseignait pas la doctrine en dehors de son église. Là où, je pense, les pentecôtistes ont failli 11 novembre 55-28 et si seulement nous, pouvons reculer dans le temps pour retrouver le moment où Dieu fit son premier homme, où il fit l'homme à sa propre image. Et Dieu étant un esprit, il devait par conséquent créer un homme esprit. Maintenant, le mot qui est utilisé ici au verset 5 c'est prédestination, prédestiné. Ce n'est pas un mot bien indiqué pour être employé par un évangéliste ou un ministre, parce que quand vous parlez de prédestiné, cela crée quelque peu la confusion chez les gens. La prédestination, par le renvoi à la préscience. La préscience fait penser à la destination. La prédestination ramène à la préscience. La préscience rejoint la destination. En d'autres termes, Dieu n'a pas dit, maintenant, je ferai que cet homme soit ceci, et je ferai que cet autre soit cela. Mais pour être Dieu, il devait connaître la fin, depuis le commencement. Ainsi, en raison de sa préscience, il pouvait dire, ceci arrivera et cela arrivera, parce qu'il était Dieu et il savait où chaque chose serait placée. Et par conséquent, il pouvait ordonner certaines choses pour certains âges. Croyez-vous cela? Ce sester vraiment scripturaire. Maintenant, c'est là que la confusion entre en jeu. Les gens sont d'accord avec le fait que Dieu qui connaît à l'avance, mais ils s'opposent à ce que Dieu prédétermine, ce qui est exactement ce que signifie vraiment la prédestination. Question et réponse mère 23 décembre 5913. Et commençons à lire ici dans Éphésiens, au chapitre 1, 114 maintenant. D'abord, je voudrais dire ceci, prédestination est un mot qu'il n'est mis convient pas d'utiliser pour un prédicateur devant une assemblée non enseignée. Voyez-vous? C'est Esther cela. Moi? Je n'aime et l'utilise pas. Quelquefois ici à l'église. Mais là devant les auditoires. Là dans le grand. Ou le. Tout le monde s'entasse venant de partout. Je fais attention à ce mot. J'emploie toujours le mot préscience. Parce que la prédestination n'estère que la préscience de Dieu. Dieu étant infini, il connaissait toutes choses par préscience. Sinon il n'est mis serait pas infini. Voyez-vous? Voyez-vous? Il savait ce qui arriverait. Aussi, par préscience pouvait-il prédestiner. Maintenant, que vient-il de dire ici? Il a dit que Dieu étant infini, autrement dit, Dieu, étant omniscient, sachant toutes choses, pouvait prédestiner. Alors Dieu sait le résultat qu'il va prédestiner ou prédéterminer. Écoutez, la Bible regorge de mots comme prédestination, prédestiné, ordonné ou destiné, etc. Ils sont tous la même chose, et ce matin nous allons parler de ces définitions, car à moins que vous compreniez les termes de la Bible, vous n'aimez et comprendrez jamais les doctrines de la Bible. Dans la citation suivante, William Branham nous dit comment Dieu a pu préordonner certains à la gloire et certains à la condamnation. La foi d'Abraham 28 novembre 55-19 est le mot prédestination. C'est Esther un terme très fort au milieu d'un groupe de gens. Parce que la prédestination. En fait, le mot pression s'Esther mieux. Et la prédestination regarde en arrière vers la préscience. Et la préscience regarde vers la destinée. Bien sûr, c'est Esther parce que la préscience de connaître d'avance la destinée signifie que vous connaissez la destinée ou le résultat avant même qu'il n'ait lieu. C'est Esther à dire que Dieu, étant infini, au commencement, il connaissait la fin dès le commencement. Par conséquent, il savait ce que les gens feraient. Alors il pouvait dire à l'avance ce qui allait arriver, car il savait ce qui allait arriver. Par conséquent, il, avant que Saül ou Jacob, que l'un ou l'autre naisse, Dieu pouvait dire, j'ai Saül, et j'aimai Jacob, parce qu'il savait à l'avance ce qu'il serait. Il n'avait jamais créé Saül tel qu'il était. Il n'avait pas voulu que Saül soit ainsi, mais Dieu savait que Saül choisirait lui-même d'être ainsi. Ainsi c'est Esther de cette manière qu'il nous connaît aujourd'hui. Il connaît votre cœur. Et si vous pourriez tromper votre voisin, vous pourriez tromper votre pasteur, mais vous n'aimez pouvez jamais tromper Dieu, parce qu'il connaît votre cœur. Alors, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent je 16 avril 64-203 et, bien, si je vous laisse sortir à temps, je n'aurai pas le temps de former une ligne de prière ici. Quoique vous ayez des cartes de prière, je pense. Vous n'avez pas à être ici. Dieu Esther tout aussi puissant ici qu'il l'Esther n'importe où. 204 il. Croyez-vous qu'il Esther omniprésent? L'assemblée dit, Amen. -de, certainement qu'il l'Esther. Il Esther omniprésent. Parce qu'il Esther omniscient. Eh bien, il connaît la fin parce qu'il, du fait qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Ainsi donc, il est partout de par son omniscience. 205 c'est juste comme le mot prédestiné, c'est un mot qui dérange. Je l'ai utilisé il y a quelques minutes et je me suis ressaisi, parce que j'ai senti un peu de réserve. Beaucoup de gens n'aimés croient pas dans la prédestination. La prédestination, c'est un mot qui dérange. À vrai dire, c'est la préscience. Dieu sait d'avance qui voudra et qui n'aimé voudra pas. Ainsi donc, il peut prédestiner par ses préciences. Si Esther la raison pour laquelle il sait qu'il voudra et qu'il n'aimait voudra pas. Voyez, il n'aimait. Il n'aimait veut pas qu'aucun périsse. Mais il sait qu'il périra. Sinon, alors il n'estère pas Dieu. Maintenant, remarquez qu'il revient sans cesse à cela, Dieu prédestine par préscience. Or, prédestiner signifie prédéterminer la destinée. Donc Dieu par préscience, étant omniscient, connaît la destinée de toute chose qu'il a créée. Et rappelez-vous qu'il avait ordonné certains à la gloire, mais d'autres étaient déjà ordonnés à la condamnation. Le supersigne 20-29 novembre 63 dit Dieu connaissait la fin depuis le commencement. C'est Esther pourquoi il pouvait tout planifier, de sorte que cela concourt à sa gloire. Et cela nous encourage de savoir que peu importe ce qui se passe, Dieu fait marcher toutes choses. L'horloge indique bien l'heure. Maintenant, remarquez une fois encore que vous, Néhémie, pourriez pas quitter ce qu'il dit ici. Dieu, par omniscience, sait combien de fois un moucheron clignera des yeux, et combien de puces il faut pour faire un livre de suif. Donc Dieu, par préscience, prédétermine qui sera glorifié et qui n'acceptera pas sa doxa et Néhémie sera donc pas glorifié. Maintenant, jusqu'ici, les gens penseront toujours qu'ils ont quelque chose à dire pour savoir s'ils le réussiront ou pas, comme si leur choix était plus grand que celui de Dieu. Mais ce n'est-ce pas une affirmation correcte? Dans son sermon à Abraham et à sa postérité à Proludim 16 avril 61-26, mais, vous voyez, Abraham n'était rien en lui-même. Il avait été appelé par élection. Donc, puisqu'Abraham avait été appelé par élection, sa postérité après lui doit donc être appelée par élection. C'est vrai. Jésus a dit, « Nul Néhémie peut venir à moi si mon père Néhémie l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. » C'est pourquoi on Néhémie fait que prêcher l'Évangile très clairement. Cependant les brebis élus de Dieu entendront cela, le saisiront très vite, et elles croiront au baptême du Saint-Esprit alors que les autres s'en éloignent et s'en moquent. Parce que ceux-là ont été élus à entendre cela. C'est tout. Voyez? Vous voyez donc maintenant pourquoi l'Église elle-même est élue? Élue, d'avance par Dieu. Eh bien, laissez-moi prendre un mot dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, où il est dit, prédestiné. Eh bien, ce n'est pas un bon mot à utiliser devant les gens. En effet, prédestiné, c'est un. Il serait mieux pour nous de le dire comme ceci, c'était par la préscience. Dieu, par sa préscience, a pu prédestiner pour sa propre gloire. Voyez? Les fils de Dieu manifestent mer 18 mai 60-38. Nous voyons donc que là dans la Genèse et dans l'Apocalypse, Apocalypse 17.8, qu'il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Or, le mot. Laissez-moi lire le verset suivant. Fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés. 39 maintenant, j'aimerais m'arrêter sur ce mot, prédestiné. Bon. Prédestiné. Ce n'est pas de dire, je vais choisir frère Neville, et je ne m'y choisirai pas frère Bellé. Ce n'est pas ça. C'est par la préscience de Dieu, qui savait lequel allait être juste, et lequel n'allait pas être juste. Donc, par sa préscience, Dieu, qui savait ce qu'il allait faire, a prédestiné, par sa préscience, toute chose, afin qu'elle concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pour qu'ils puissent, dans l'âge à venir, réunir toutes choses en une seule personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas Dieu sachant quel choix vous feriez, mais plutôt Dieu plaçant en vous sa semence pour que vous puissiez prendre la bonne décision. La foi 27 avril 5664. Et si vous étiez prédestiné ou prédestiné par préscience à n'aimer jamais recevoir Christ, vous savez que c'est vrai. La Bible dit, les gens d'autrefois, dans la condamnation Esther écrite depuis longtemps, qui change la grâce de Dieu en dissolution, Jude, verset 4. L'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité, Jeu 23 février 56-15. Or, Jésus n'est Esther, pas venu au calvaire juste comme par hasard, eh bien, je vais mourir là-bas. Peut-être que quelqu'un aura pitié de moi et s'agenouillerait pour être sauvé. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu gère son affaire. Ce n'est pas ainsi que vous gérez la vôtre. Jésus est venu dans un but spécifique, c'était pour racheter ce que Dieu avait connu d'avance qu'il serait racheté. Voyez. Or, Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse, mais voulait que tous arrivent à la repentance. Mais pour être Dieu, il devait savoir. Eh bien, le mot prédestiné tel qu'utilisé dans Éphésiens 1.25, prédestiné là. C'est un bon terme. Cela veut dire, en parlant aux gens de la prédestination, parfois ça les amène à penser que Dieu vous a simplement prédestiné juste pour vous pousser au travers d'un petit canal ou quelque chose comme cela. Ce n'est pas vrai. La prédestination regarde en arrière, à la préscience. Et la préscience regarde vers la destinée. Hébreux chapitre 6. Dodim 8 septembre 57 S294 et ensuite Christ mourut pour sauver ce que Dieu, par préscience, avait lu, afin qu'il le rencontre là-bas sans tache ni ride. Avant la fondation du monde, il vous a vu dans la gloire. C'est ce que dit la Bible. Éphésiens, chapitre 1, chapitre 5, verset 1. Dieu a prédestiné par la préscience de 195. Or, si Dieu a fait cela, s'il nous a prédestinés avant la fondation du monde, et qu'il a connu chacun de nous par son nom avant la fondation du monde, et qu'il nous a élus pour la vie éternelle, et qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter, qu'il nous a vus il y a 6000 ans, afin que nous puissions apparaître à sa louange dans la gloire, comment pourrait-on être perdu? Vous voyez? Voici la chose. Vous, Néhémie, pouvez pas prendre un de ces mots et l'utiliser seul. Ils travaillent tous ensemble. Dieu étant omniscient, il pouvait prévoir, et ainsi élire ou choisir, et en choisissant qui le ferait et qui Néhémie le ferait pas, il trace ensuite votre voie afin que vous parveniez à cette destinée prédestinée. 1 Corinthiens 2.9 « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'aiment sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ni Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'aime et connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voyez-vous, il y a cette omniscience de Dieu. Remarquez que Paul dit, l'homme n'aime connaît pas mais Dieu connaît. Et puis il dit au verset suivant, 12 Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Très bien. Comment connaissez-vous? En ayant l'Esprit de Dieu en vous. N'est-ce pas? Pourtant, nous savons que Dieu est souverain et donne son Esprit à qui il veut. C'est pourquoi on nous dit aussi qu'il ne s'agit pas de votre choix de connaître, car nous lisons dans Jean 1.4 en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'y l'ont point reçu ou compris. 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Maintenant, pas pour sortir du sujet, mais je veux m'arrêter ici et mentionner que le frère Derek m'a envoyé un article qui disait la même chose que nous venons de lire de l'apôtre Jean. La science a récemment été en mesure de voir que chaque fois qu'un spermatozoïde entre en contact avec une ovule et que l'ovule germe, il y a une étincelle de lumière qui se produit au moment précis où le spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Qu'il soit animal ou humain, il y a une étincelle de lumière qui apporte la vie. Maintenant, nous savons qu'au commencement, Dieu a parlé qu'il y eut la lumière. Ça c'est Genèse 1.3 et cette lumière était le logo de Dieu, et cette lumière apporta la vie. Il a donné naissance au Fils de Dieu, qui est Jean 5.26 et Proverbe 8.22-35. J'aurais aimé avoir le temps d'aborder cela, mais ceux qui aiment étudier la parole prendront ces notes et les versets et passeront un moment glorieux à étudier cela. Quoi qu'il en soit, la lumière étant le logo a produit la vie. La lumière apporte la vie. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière d'im 29 décembre 63 M74, toute vie. Il n'y a donc de vie que par la parole de Dieu rendue manifeste. La vie n'est émise vient que par la parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu'elle est juste dans le livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c'est rendu manifeste, vous voyez alors manifester le produit de ce dont elle parlait. C'est alors la lumière sur la parole. Voyez, c'est ce qui apporte. Quand la parole dit une chose et qu'ensuite cela s'accomplit, c'est la vie dans la lumière apportant la vie. 75. La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va. Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il n'est mis produira jamais quelque chose parce qu'il n'est mis le peut pas. Il n'y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, elle produira alors la vie. Si c'est une semence qui a la vie. La science vient de prouver la même chose. Il a fallu attendre 2014 pour prouver ce qu'un prophète confirmé nous a enseigné en 1963. C'était il y a 51 ans. On avait déjà la solution. Si la science avait seulement accepté ce que ce prophète confirmé nous a enseigné, ils auraient pu s'épargner 51 ans. Et puis frère Branham fait une autre déclaration remarquable quand il dit en Esther de même pour la parole. Voyez, la parole Esther Dieu et quand la lumière la frappe, cela l'amène. La lumière frappe cela. Cela vivifie de nouveau la parole. Chaque âge a toujours été comme cela. Et s'estère donc de la même manière que le logo apporte encore la vie dans le monde, par la lumière frappant la semence et la faisant germer. De même, la glorieuse lumière de Dieu, le logo de Dieu ou l'âme de l'homme qui entend la parole, la reconnaît, ce qui estère la germination, puis agit sur elle montrant qu'elle a été vivifiée à la vie. Leçon confus d'hymne 18 décembre 6042 et pourtant, l'homme, quelque part au fond de lui, quelque part en lui, si seulement il pouvait laisser cette petite, telle que je l'ai illustrée, pareil à un bouton. Quand un homme est sauvé, cette portion de lui est Dieu. C'est la petite lumière qui entre pour lui faire cesser le mal acquis. Eh bien, si vous arrivez à ôter toute la malice, l'envie, les querelles et l'incrédulité, Cette petite lumière semblable à un bouton et la puissance de Dieu continueront à grandir. 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 Chassant l'incrédulité. Et ce n'est pas par des exhortations sur l'exercice corporel que vous le faites. C'est par une vie sanctifiée. Consacrée. Que le Saint-Esprit exerce à travers vous. Que vous le faites. Pourquoi? Psaume 28 janvier 61-79. Maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre salut soit renouvelée, et à vous qui, quelque part vous avez perdu la joie, réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière? Avez-vous négligé la lecture de la Bible? Avez-vous négligé la prière à la maison? De demander la bénédiction à table? Néhémie, faites jamais cela. Oh! Là là! C'est tellement. Cela n'est pas tellement convenable aux chrétiens. Peu importe où vous êtes. Inclinez la tête et priez. N'ayez pas honte de lui. Priez n'importe où. Voyez. Et si jamais là où vous avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la petite racine d'amertume qui s'est infiltrée. Souvenez-vous, lorsqu'un homme est sauvé, autant que ceci, comme ce bouton-ci, ça devient la vie éternelle dans votre cœur. C'est Dieu. Au fur et à mesure que vous serez capable de faire sortir toutes les racines d'amertume, alors Dieu commencera à s'étendre en vous. Alors, vous devenez un fils de Dieu. L'homme a été fait pour être Dieu, pour être un Dieu. Le savez-vous? Il est à l'image de Dieu, il est un fils de Dieu, il est semblable à lui. Il lui a été donné un domaine, Genèse 1.26, les dominations sur toute la terre. C'est juste. Il dominait la terre. Il dominait sur le règne animal, ainsi que sur tous les autres règnes. Tout à l'exception du royaume de Dieu qui est au ciel. Il était Dieu, il était un Dieu amateur. Il a été créé à l'image de Dieu, il a été créé à la ressemblance de Dieu, il avait des mains et des pieds comme Dieu. Il était à l'image de Dieu. Qu'est-il arrivé? Pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu, cela l'a carrément renvoyé en arrière pour qu'il se débrouille par lui-même. Maintenant, Dieu essaie de le ramener. Et lorsque vous avez la foi, et que vous l'acceptez, mon frère, et que vous laissez cette petite lumière commencer à grandir, ôtant toutes les racines de doute et d'amertume, et que vous vous abandonnez à l'esprit, alors vous commencez à devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu, vous commencez à croître dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit commence à bâtir son royaume au-dedans de vous. Le Messie mardi 7 janvier 61-18 bien. Par exemple, quand un homme est sauvé, il est juste comme la lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton blanc sur ma chemise. Ça, c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme où l'homme a été fait suivant le modèle d'un tabernacle, le parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin le lieu très saint, la gloire de la Shekinah était à l'intérieur du voile. Très bien. Donc pour revenir à l'article, on voit ici une photo de la lumière qui étincelle quand le spermatozoïde pénètre dans l'ovule et il y a une étincelle de lumière, d'énergie, de vie et s'estère au moment de la conception. Ainsi, la lumière de Dieu continue de créer comme elle l'a fait dans Genèse 1.3 qui a ouvert une voie pour Genèse 1.11 et ensuite pour Genèse 1.26, la lumière entrant dans l'homme. Et admettons-le, tout homme, et tout animal, est toujours une création de Dieu par le même processus de la lumière frappant la semence, la lumière faisant jaillir une création vivante de Dieu aujourd'hui encore. Mais ce qui est encore plus important, c'est quand la vie même de Dieu entre dans l'âme, comme frère Branham l'a dit dans les citations précédentes. Voici l'image que la science a capturée de l'étincelle de lumière au moment de la conception. Les scientifiques viennent de capturer l'éclair de lumière qui jaillit quand un spermatozoïde rencontre un ovule BEXRW27PR2016. Pour la toute première fois, des scientifiques ont capturé des images de l'étincelle de lumière qui jaillit au moment où un spermatozoïde humain entre en contact avec un ovule. Le phénomène a déjà été observé chez les animaux, mais personne n'avait jamais vu l'étincelle de la conception de l'homme. Et une équipe universitaire de Northwestern University découvre que ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait que certains ovules étincellent avec plus d'éclat que d'autres, ce qui est une indication directe de leur capacité à se développer en des embryons sains. Alors pourquoi y a-t-il littéralement des étincelles au moment de la conception? En 2011, l'équipe de Northwestern découvre que des étincelles de zinc explosaient au moment de la conception chez la souris. Il leur a fallu quelques années pour comprendre comment imaginer cet événement, mais en 2014, ils avaient réussi à filmer l'événement pour la toute première fois, et avaient observé des milliards d'atomes de zinc se libérer au moment exact où un ovule de mammifère est percé par un spermatozoïde. Revenons à Jean 1 et nous reprendrons au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde n'a aimé la point connue. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens n'a aimé l'ont point reçu. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, exousia, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, si votre nouvelle naissance Néhémie vient pas d'un acte de votre chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, alors ce n'est pas ce que vous avez choisi mais ce que Dieu a choisi, car il est souverain dans son choix. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles. Maintenant, la semaine prochaine, nous approfondirons les définitions de la préscience, de l'élection et de la prédestination, et puis dans 2 semaines je vais vous montrer que la preuve de la nouvelle naissance est que Dieu vous enseigne et vous recevez cela et vous vivez cela. Et c'est la différence entre les 2 vignes. L'une est ordonnée à la gloire tandis que l'autre est ordonnée à la condamnation. Alors Paul continue 14. Mais l'homme animal Némi reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il Némi peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge ou qu'on les discerne. Par conséquent, à moins que vous Némi soyez rempli de l'Esprit, vous n'aimez connaître jamais les choses de Dieu et, par conséquent, vous n'aimez ferez jamais ce que les choses de Dieu vous demandent de faire. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Ainsi, les hommes enseigneront que Dieu, étant omniscient et connaissant la fin dès le commencement, savait qui le voudrait et qui n'aimait le voudrait pas et fondé sur cette préscience. Dieu élit alors ceux à la gloire qui choisissent le bien, et il élit à la condamnation ceux qui n'aimait choisissent pas le bien. En croyant cela, les hommes placent, cependant, la capacité de l'homme à choisir au-dessus de la volonté souveraine de Dieu, et ainsi il tombe dans l'erreur. Et à moins que vous n'ayez compreniez ces termes, la préscience, l'élection et la prédestination, vous serez même confus par ce que frère Branham dit et que nous avons cité, parce qu'il parlait à des gens qui s'opposaient au mot prédestination. J'ai assisté une fois au séminaire d'un homme qui était considéré comme le plus brillant érudit des évangéliques. Son nom est le docteur Norman Gessler. Le docteur Gessler a tellement de diplômes que vous pourrez emplâtrer un mur. Il a une licence en théologie du William Tyndale College. Une maîtrise en théologie du Wharton College. La même université que Billy Graham a rendu célèbre en y obtenant son diplôme. Et puis un doctorat de l'université Loyola qui est une université catholique du nom du fondateur de l'ordre jésuite Ignatius Loyola. Cela devrait vous faire savoir combien cet homme a de discernement et de révélation. Aucun. Mais étant donné qu'il est le docteur en théologie par excellence parmi les évangéliques, cela devrait vous faire savoir qu'il est un trinitaire invétéré, qui n'est en fait qu'un autre pseudonym de la triade babylonienne d'Anu, de Haï dans l'île, Anu étant le père des dieux, Ea étant le fils du père et en l'île, étant le vent ou l'esprit. Un jour, si jamais nous en avons l'occasion, j'aimerais prendre le temps, si jamais nous avons la chance d'aborder les triades pagènes de la Babylone antique, de l'Égypte antique, de la Rome antique et de la Grèce antique, pour vous montrer qu'ils avaient tous la même fausse adoration d'une divinité, satanique. Mais pour l'instant je vous recommande de lire les deux Babylone d'Islop, pour vous informer sur l'histoire de la Trinité dans la fausse adoration pagène. Dans l'Encyclopédia Britannica, nous lisons qu'en l'île, également connue sous les noms d'Elil et de Nunamnir, était le dieu de l'air sumérien dans le panthéon mésopotamien mais était plus puissant que toute autre divinité élémentaire et fut finalement adoré comme le roi des dieux. Il était le fils du dieu des cieux Anu, également connu sous le nom d'An et, avec Anu et Anki, dieu de la sagesse, il formait une triade qui gouvernait les cieux, la terre et le monde souterrain ou, alternativement, l'univers, le ciel et l'atmosphère, et la terre. Après Anu, Enlil était le plus puissant des dieux mésopotamiens, gardien des tablettes de la destinée qui contenait les destins des dieux et de l'humanité, et était considéré comme une force imparable dont les décisions émises pouvaient être remises en cause. C'est donc votre base pour la Trinité qui est allée de Babylone en Chine, puis en Égypte, à Rome et en Grèce. Et de là, elle a été adoptée en 325 par l'Église catholique au Concile de Nicée. Quoi qu'il en soit, le docteur Gessler est célèbre pour son livre en 4 volumes intitulé « La théologie systématique » et dit dans un autre livre « Je suis ici pour la défense de l'Évangile ». Maintenant, je n'ai émis comprend pas comment quelqu'un qui croit en une triade babylonienne puisse être un défenseur de l'Évangile. Mais en assistant à son séminaire en 1978, je me suis intéressé à la façon dont les soi-disant défenseurs de la foi considéraient certaines vérités bibliques. Alors je lui ai posé des questions sur la prédestination, et il a essayé d'expliquer la prédestination de cette façon, et en utilisant une histoire. Il a dit, si vous étiez au sommet d'un bâtiment et qu'en regardant en bas vous voyez deux voitures se dirigeant vers la même intersection, et en fonction de leur vitesse et de leur distance par rapport à l'intersection, vous savez qu'ils allaient se heurter, seriez-vous responsable de l'accident? Eh bien, il a poursuivi en disant, c'est ainsi que fonctionne la prédestination. Dieu connaissant toutes choses, il connaît qui le choisira et qui Néhémie le choisira pas et donc il Néhémie vous pousse pas à travers un tube et puis vous tient pour responsable. Il connaît juste votre fin dès le commencement. Maintenant, cela pourrait vous donner une idée chaleureuse de Dieu, mais cela Néhémie tient pas dans le tribunal de la parole de Dieu. Par conséquent, pour croire cela, vous devez être prêt à jeter des pans entiers de la Bible et vous devez être disposé à croire que l'homme est capable à lui seul de faire un bon choix. Dieu connaît votre fin depuis votre commencement, parce qu'il a prédéterminé votre fin. C'est ce que signifie le mot prédestiné. Cela signifie prédéterminé. Délimité d'avance. Votre destinée. Par conséquent, la prédestination est la voie que vous êtes destiné à prendre. Tournons-nous maintenant vers la parole et examinons les passages qui doivent être relégués aux ordures afin de prouver que le libre arbitre n'a rien à voir avec l'élection. Dans Jean 15.16, Jésus a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Maintenant, nous pourrions nous arrêter ici et conclure. Soit cela s'adresse à tous les croyants, soit ce Néhémie s'adresse pas à tous les croyants. Sinon, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les croyants portent des fruits, et tous les croyants n'ont pas le droit de demander quelque chose au Père au nom de Jésus et de s'attendre à recevoir ce qu'ils demandent. Mais Jésus nous dit ici que nous ne l'avons pas choisi en premier, mais il nous a choisis, et notre amour envers lui, notre acceptation de sa personne, n'est-ce qu'en réaction à son choix. Dans 1 Jean 4.19, nous entendons Jean nous dire, pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier. Maintenant, soit c'est vrai, soit ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, nous devons alors le déchirer de notre Bible. Et si ce passage est erroné, alors quoi d'autre est erroné? Si nous croyons que Dieu a écrit la parole, que sa Bible est la parole non adultérée de Dieu, alors nous devons accepter ce qu'elle nous dit. La Bible n'aimait combat pas la Bible. Dans Deutéronome 7.6 nous lisons, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui apparge entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 8. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. 10. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il n'est mis diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Encore une fois, nous voyons que ce n'était pas notre choix mais le choix de Dieu qui est impliqué ici. Dans son sermon La guérison divine dimanche 19 décembre 54, M. Frère Branham a clairement dit que notre élection est souveraine et que le choix appartient à Dieu et non à nous. Il dit, 133 écoutez. Ce n'est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. C'est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. Soyo aussi voulait être sauvé. Il a pleuré amèrement, mais il n'avait plus la possibilité de se repentir. Il voulait être sauvé. Ce n'est pas parce que vous voulez être sauvé. Dieu a dit, j'endurcirai celui que je veux endurcir. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. C'est vrai. Il a dit, avant que Soyou Jacob fût né, Néhémie connaissant ni bien ni mal à qui, a dit Dieu, j'ai aimé Jacob et j'ai agi Soyou. Et Soyou a essayé de se mettre en règle avec Dieu et il n'y est pas parvenu. Pharaon a essayé de se mettre en règle avec Dieu et n'y est pas parvenu. Ainsi, cela ne dépend pas de vous. Ce n'est pas ce que vous voulez. C'est ce que Dieu a ordonné pour vous de faire. C'est juste. 134 là, dans le chapitre 9 des Romains, Paul a dit, le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire de l'argile un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? pour montrer sa gloire à ceux qu'il a honorés? Vous ne le saviez pas? N'est-ce pas? C'est-ce que déclarent les Écritures? 135 Pharaon a essayé de son mieux de se repentir. Il avait bon cœur. Il a dit, « Certainement. Je vous laisserai partir. Partez. » 136 Dieu a dit, « Non. Non. Je vais endurcir son cœur afin que vous ne m'y partiez pas. » En effet, la parole de Dieu doit s'accomplir. 137 Et si nous vivons ce jour où la froideur et tout ont démoli l'Église et l'ont emporté à la dérive, eh bien, c'est-à la parole de Dieu qui s'accomplit. Aussi sûr que Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, aussi sûr que Dieu a dit que ces églises seront comme elles le sont maintenant, Dieu a dit aussi qu'on rencontrerait cette opposition. Alors, le même Dieu qui a ordonné ces signes et ces miracles a dit qu'il y aurait la persécution contre cela. Voilà donc. Si vous êtes de l'autre côté, je suis désolé. Je n'aimerais pas que vous soyez ainsi, mais peut-être que vous n'y pouvez rien. Vous voyez? Peut-être que Dieu a arrangé les choses de cette manière. Dans Proverbe 14.12, nous lisons, telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce verset nous dit que l'homme essaiera de choisir ce qui lui semble juste, ou la voie qu'il pense être, la bonne voie. Mais le choix de l'homme conduira toujours à la voie de la mort. Par conséquent, même dans notre choix, nous avons besoin d'un Dieu qui veillera sur nos choix et nous aidera à faire le bon choix. Dans Philippiens 3.15 nous lisons, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Dans les versets suivants, nous découvrons que Dieu est activement impliqué dans les choix que font ses élus. Psaume 37.23 L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Ici, nous trouvons le mot hébreu kuvn, traduit par affermi, et signifie mettre en place ou établir, préparer ou organiser. Par conséquent, nous voyons la main de Dieu activement impliquée dans les pas d'un homme bon ou juste. Dans Proverbe 16.9 nous lisons, le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ici, nous constatons que bien qu'un homme puisse méditer et même planifier sa voie, Dieu a le pouvoir ultime de dicter et de diriger les traces même de cet homme. Jonas en est un exemple classique. Le Seigneur lui a dit de faire telle et telle chose et quand Jonas a eu ce qu'il pensait être un meilleur plan, Dieu a juste repris la situation en main et a produit exactement ce qu'il avait l'intention de produire. Jonas n'avait pas le choix. Ou du moins son choix Néhémie signifiait rien en comparaison de ce que Dieu voulait. Dans Jérémie 1.5 nous lisons, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie Néhémie pouvait plus s'écarter de ce à quoi Dieu l'a appelé, même s'il le voulait. C'est-à-dire ce pourquoi il est terné. Et rappelez-vous, Jonas a voulu fuir cela, mais Dieu Néhémie l'a pas laissé faire. Autant pour notre volonté, qui trace notre destinée. Nous trouvons aussi dans le livre des Actes 13.48 les pagènes se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Si nous devons croire ce verset, alors nous devons reconnaître que tous ceux qui sont destinés ou ordonnés à la vie éternelle croiront. Alors ceux qui Néhémie sont pas ordonnés à la vie Néhémie croiront pas. Et voilà votre preuve de l'élection. 1 Corinthiens 2.7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, Éphésiens 1.4 lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5 nous ayant prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Or, si Dieu avait une parole qu'il a ordonnée avant que le monde n'ait mis commence, et si cette parole devait produire la gloire dans un peuple élu, ou un peuple choisi par Dieu, alors il devait y avoir un peuple dans la pensée de Dieu avant que le monde n'ait mis commence qui, au bon moment, croirait cette parole prédestinée, et recevrait la gloire qu'ils sont ordonnés à produire. Maintenant, tout comme il y a ceux qui ont été ordonnés à la gloire et à la vie éternelle, nous découvrons aussi ceux qui ont été ordonnés à la condamnation. Jude 1.4 Car il s'estère glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation estère écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul réduit à néant la théorie qui parle du libre arbitre comme la cause première de l'élection dans Romains 9.11, car, quoique les enfants d'Émie fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal acquis, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. 12 Il fut dit à Rebecca, la jeunesse sera assujettie au plus jeune. 13 Selon qu'il Esther écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai Ésaü. 14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. 15 Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. 16 Ainsi donc, cela n'est mis dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce ce qui résiste à sa volonté? 20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Paul dit très clairement que notre élection n'est dépend ni de vous ni de moi, mais entièrement de Dieu. Il va même jusqu'à dire, ainsi donc, cela n'est mis dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Maintenant, si ce n'est pas lui qui veut, alors votre volonté et ma volonté n'ont rien à voir avec notre élection. C'est Dieu qui choisit soit de faire preuve de miséricorde, soit donner mi pas en faire. Par conséquent, si votre volonté n'a rien à voir avec votre élection, encore moins votre choix. Car votre choix n'est que le reflet de votre volonté. Vous voulez, ensuite vous choisissez. Maintenant, afin de remettre la préscience et l'élection puis la prédestination à leur place, nous devons d'abord connaître la définition de chacun de ces termes. Par conséquent, puisque la plupart des gens souhaitent que la préscience soit le principe prédominant derrière l'élection, nous commencerons par ce point en premier. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juin 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.